France Culture.
Bonjour Titouan Lamazou.
Bonjour.
C'est la dernière. Et pour la dernière, on va parler assez logiquement des travaux en cours, des derniers travaux en cours, à savoir la peinture des îles entre mers et ciel. On va parler de l'art et de la science, puisque vous nous disiez à quel point vous travaillez aussi et toujours avec des scientifiques, mais peut-être que les scientifiques ont changé de nature. Et cela va nous emmener à regarder des œuvres qui sont d'ailleurs exposées ici dans votre atelier, mais aussi à parler de livres comme « L'errance et le divers », fruit de travail fait entre 2017 et 2018, et de voyages en Martinique, aux îles Marquises. À chaque fois, il y a exposition et livres. Escale en Polynésie, entre 2019 et 2022. Alors ça, c'était en plein Covid. Je pense que le Covid n'a pas été compliqué pour tout le monde quand on est dans les archipels des Tuamotu et dans les îles du vent, sous le vent. C'est peut-être plus simple, vous nous le direz. Et puis le dernier des derniers, en date en ce mois de juin 2025 où nous enregistrons, Sous les étoiles, réalisé entre 2023 et 2025, des œuvres polynésiennes. Elles ont été exposées, ces œuvres, au Musée d'art moderne et contemporain des Sables d'Olonne à l'occasion de la 10e édition du Vent des Globes. Et elles sont réunies dans un livre, un très beau livre, Sous les étoiles. D'ailleurs, peut-être qu'on peut commencer par cette couverture qui est reproduite à la fin de cet ouvrage, parce que d'une certaine façon, il dit déjà à lui tout seul, l'évolution de votre peinture, de votre travail. Voilà, c'est l'atoll d'Anaa. Vous avez travaillé en série. On va y revenir sur les séries. Juste, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que nous voyons là ?
Alors, c'est supposé être un tableau emblématique de cette exposition qui s'appelait « Zone critique sous les étoiles ». Alors, je vais vous expliquer. Dans ce tableau, on voit un ciel qui est un petit peu éloigné de la réalité puisqu'il est tout rouge. Enfin, c'est un ciel nocturne tout rouge. Et on voit dans le bas du tableau une mince frise qui est en fait un fond marin, un récif corallien qui se trouve dans l'atoll d'Anna, qui est un atoll magnifique de l'archipel des Tuamotu. Alors je vais vous expliquer le pourquoi du titre « Sous les étoiles, zone critique ». Il se trouve que à une époque qui nous ramène au désert du Niger et à retour à Tombouctou, j'avais dessiné pour la première fois un ciel étoilé parce que je m'étais retrouvé dans le désert
de
l'Aïr au large d'Agadez. Je dis au large
Niger
parce que c'est un immense désert et qui s'apparente à l'océan. Et il se trouve que j'étais une nuit en bivouaqué, et j'étais allé faire une excursion dans ce désert de l'Aïr, et j'étais à la POC, parce que je ne pouvais pas faire autrement, j'étais escorté par la garde républicaine nigérienne, parce que en tant qu'occidental, un petit blanc là-bas, j'avais pas le droit d'aller dans le désert tout seul.
On est en 2014, hein, je précise.
En 2014. À cause de la présence des, pour prévenir d'un éventuel enlèvement. Et il se trouve qu'une nuit, on bivouaquait dans le désert de l'Aïr, et j'ai été réveillé, j'étais pas très bien préparé, j'ai été réveillé par le froid, parce que j'ai froid dans le désert la nuit, et par le vent de sable. Et tout d'un coup, j'ai levé les yeux au ciel, et j'ai vu la grande ourse énorme, verticale. Et j'avais l'impression que j'avais jamais vu la grande ourse verticale. Et au loin, dans les lueurs de la nuit, si je puis dire, il y avait flotté les falaises de Tigidit comme une île au fond de, se posait sur l'horizon. Et il y avait une petite lueur que je distinguais dans le sable, qui était en fait mon escorte nigérienne, qui faisait une tournée d'inspection avec une espèce de 4x4 surmontée d'une mitrailleuse. Et j'ai eu une sorte de vision qui était, je me disais, cette petite lueur devant cette splendeur incroyable de l'univers au-dessus de nous. J'ai eu le sentiment qu'on était vraiment des petites choses dérisoires avec nos mitrailleuses dans un décor d'une telle beauté. Et lorsque je suis rentré en France, j'ai fait une visite au CNES, le CNES, le Centre d'études spatiales, pour différentes raisons, surtout parce que je les avais comme partenaires là-bas au Niger. On avait mis en relation des écoles du Niger avec des écoles de la région de Toulouse où il y a le CNES. Et il se trouve que le directeur de l'établissement à l'époque m'avait transmis sa préoccupation et son envie de partager. Ce qu'il souhaitait que les gens ressentent, c'était l'aspect extrêmement minuscule de notre habitat sur Terre. Et cet habitat, en fait, est formé d'une très mince pellicule qui est posée sur la surface de la Terre, comme un vernis sur une boule de billard, pas plus épais. Et il se trouve que ce vernis, c'est notre habitat. C'est là qu'est apparu, il y a 4 milliards d'années, une cellule qui a engendré plusieurs cellules. C'est là qu'est apparu et qu'est née la biodiversité que nous connaissons ici. Et cette mince pellicule dans laquelle nous vivons, cet habitat, fait à peine 7 kilomètres d'épaisseur. 7 kilomètres, ça veut dire qu'il y en a à peu près 3000 mètres de moyenne de profondeur des océans. Et puis au-dessus, il y a environ 4000 mètres d'atmosphère vivable. Notre habitat, c'est 7 kilomètres. 7 kilomètres, vous le mettez à l'horizontale, c'est une bonne heure de marche à pied. C'est tout, c'est minuscule. Et ça fait 4 milliards d'années que se développe dans cet habitat minuscule la merveilleuse biodiversité, qu'elle soit marine ou terrestre, à laquelle nous appartenons, que nous nous promettons en quelques décennies de foutre en l'air et d'empoisonner et de polluer. Et il se trouve qu'en écoutant à la radio des podcasts, comme j'écoute France Culture, c'était peut-être sur France Culture, j'ai écouté Bruno Latour qui parlait de cette zone justement minuscule de notre habitat. Et j'ai découvert que les scientifiques, depuis peu de temps, depuis une vingtaine d'années, étudient cette zone et qui lui ont donné un nom à ce paradis sur Terre. Ils appellent ça la zone critique et dont les origines seraient la confrontation entre les forces telluriques de la Terre qui ont provoqué le relief, qui ont provoqué les volcans, qui ont fait le relief à la surface de la Terre, qui ont fait un bouleversement physique, un bouleversement chimique, et qui, confronté avec l'énergie solaire, a pu créer ce miracle qui est la vie sur Terre. Comme ce monsieur, ce chercheur du CNES, qui m'avait ouvert les yeux sur ce minuscule habitat dont je n'avais pas conscience, eh ben, dans mon dernier travail artistique, j'ai essayé d'aller dans son sens, de montrer en fait mon émerveillement devant cette biodiversité féerique, foisonnante, mutualiste, et qui est interconnectée et qui est unique dans tout l'univers que nous connaissons, et d'essayer de dépeindre cette biodiversité à la fois terrestre et marine. Et pour cela, je me suis inspiré de mes séjours en Polynésie. Il se trouve que vous avez évoqué une exposition au musée du Quai Branly que j'avais fait en 2018, qui s'appelait « L'errance et le divers », le bateau atelier de Titouan Lamazou, c'était le titre. Et à cette occasion, en fait, le musée du Quai Branly m'avait donné carte blanche à cette époque-là pour une exposition. Et c'était un bon prétexte pour moi, et c'était pas la première fois, pour revenir en Polynésie, que j'avais abordé la première fois en 77, et je leur ai proposé un travail sur les îles Marquises. La conservatrice du musée de Tahiti et des îles Tahiti a visité cette exposition du musée du Quai Branly et m'a dit « ça serait bien que tu l'amènes à Tahiti ». Mais, pour des considérations dans lesquelles on ne va pas rentrer, elle me dit « mais il n'y a pas que les Marquises en Polynésie, il y a d'autres archipels aussi, ça serait bien que tu fasses une exposition qui aborde tous les archipels ». Je lui dis « moi je ne suis pas raciste ».
Qu'à cela ne tienne.
Qu'à cela ne tienne. Et donc je suis reparti en Polynésie. Au lieu de revenir en France, je me suis dit « mais je ne vais pas faire des allers-retours comme ça, ce n'est pas terrible pour mon bilan carbone d'une part ». Et puis d'autre part, j'avais trouvé un petit atelier sur la plage de Tahiti. C'était peut-être en moi depuis longtemps, mais je me suis dit « mais en fait, je vais poser mon sac en Polynésie ». Et c'est là que je réside plus que la moitié du temps depuis. Voilà.
L'autre moitié du temps, Titouan Lamazou, est donc à Paris, où vous êtes quand même au bord de l'eau, puisque vous êtes sur un quai,
oui.
Un quai de fleuve.
Qui s'appelle la promenade d'Éric Tabarly.
En plus. C'est pas pour rien, vous restez quand même très proche de l'eau. Mais vous parliez de cette nuit de 2014 dans le désert de l'Aïr au Niger et de cette sorte d'épiphanie face à la grande ours verticale. Est-ce que vous diriez que ça a représenté un tournant dans votre peinture, dans votre œuvre, dans votre engagement d'ailleurs aussi de ces dernières années? Parce que il me semble que vous êtes beaucoup plus tourné vers le vivant non humain qu'auparavant, ou alors juste que vous en avez eu marre des humains?
Non, pas du tout. C'était Je suis un petit peu misanthrope, effectivement.
Juste ce qu'il faut.
Mais non, il se trouve que l'exposition suivante que j'ai réalisée pour le musée de Tahiti et des îles, il aurait pu s'appeler, il s'appelait Escale en Polynésie, il aurait pu s'appeler La Voix des Archipels, parce que je suis quand même allé voir, cette fois-ci, si je m'étais intéressé pour l'expo du musée de Quai-Branly, aux mythologies, aux peuples anciens d'Océanie. Là, je me suis intéressé aux peuples contemporains, les habitants des archipels.
Ah, ils n'ont pas disparu.
Confrontés aux enjeux de notre temps, c'est-à-dire au réchauffement climatique, à la paupérisation, aux inégalités, etc. Ils n'y échappent pas. Et en revanche, pour cette dernière exposition, là, je me suis consacré uniquement aux vivants non humains. Et j'ai l'impression que je travaille là-dessus depuis toujours, mais que j'avais fait quelques détours, voilà, dans mon parcours, pour arriver à m'intéresser à ce qui m'émerveille le plus, c'est la biodiversité à laquelle j'appartiens, mais à la biodiversité qui soit marine et terrestre. Et il se trouve quand même que dans le territoire, le vaste territoire de la Polynésie, qui est grand comme l'Europe, où les Marquises, on pourrait dire que c'est en Suède, et les Australes, c'est au Portugal, et les Gambiers seraient plutôt en Grèce ou en Turquie. Donc c'est très grand. Il y a des centaines et des centaines d'îles, des milliers de motus, dont la biodiversité, qu'elle soit sur les îles, qu'elle soit végétale, terrestre, ou marine et sous-marine, est absolument foisonnante, merveilleuse. Et c'est ce que j'ai essayé de traduire en peinture, cette fois-ci vraiment en peinture, et qui s'éloignent parfois, quand on regarde les tableaux, qui s'éloignent de leur représentation, enfin de la réalité. Et je prends quelques libertés sur les couleurs et tout ça, mais j'essaie de transmettre, en fait, ou de peindre ce que je ressens.
Oui, alors ça aussi, c'est une forme d'évolution dans votre peinture, parce qu'on a dit au fil de ces épisodes à quel point, et en particulier dans les portraits dont on a beaucoup parlé dans l'épisode précédent, des portraits féminins par exemple, à quel point vous enregistriez le monde aussi avec votre œuvre, avec votre pinceau, avec votre appareil photographique aussi, mais surtout avec votre pinceau, c'est-à-dire comment vous essayez de traduire ce que vous voyez, même s'il y avait toujours une dimension subjective, évidemment. Mais là, aujourd'hui, on va nettement plus vers quelque chose d'onirique, de contemplatif. On n'est plus du tout, même peut-être plus figuratif, tellement que ça.
Le résultat, en tout cas, est une peinture d'atelier. Bien que je n'ai jamais... Je ne fais pas du travail d'imagination pour autant, parce que j'ai toujours besoin d'avoir une légitimité. C'est-à-dire que tous ces tableaux sont issus... au départ, de croquis faits in situ, même les tableaux sous-marins, c'est-à-dire que je vais faire de la peinture sous-marine.
Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup de poissons et de coraux.
Voilà, alors je vais faire mes esquisses, mes observations premières, je prends une bouteille, je reste une heure, deux heures, parfois deux heures, parce que c'est immobile au fond d'un lagon, je me plante devant une patate de corail et j'observe. Et je dessine avec des pastels gras à l'huile. Mais j'ai besoin d'avoir cette légitimité d'être allé voir de mes yeux et toucher de mes doigts. Et donc je réalise après des interprétations de ces croquis, de ces regards sur le terrain. À la fois, c'est un peu, je pratique la peinture comme faisait Monet quand il allait au champ ou quand il était sur sa barque sur la Marne. Et je reviens à l'atelier, je fais des toiles de grande dimension et qui sont là... inspiré, c'est-à-dire que je conserve mes esquisses de départ, mais j'ai dans mon atelier, comme vous pouvez voir autour de moi, des livres ouverts, des artistes que j'admire particulièrement,
qui sont par exemple
Matisse, ou ça peut être Munch, et plus contemporain, ça peut être David Hockney ou Peter Doig, et je m'inspire de leur talent, voire de leur génie, pour brousser mes toiles. Voilà, ça se voit pas forcément au premier regard, mais enfin certains quand même, quand on connaît les œuvres de Matisse et de Munch, on reconnaît quand même leurs pattes.
Dans l'évolution de votre peinture, Titouan Lamazou, vous l'avez dit vous-même, vous êtes aussi passé de l'acrylique, la gouache, vous utilisiez beaucoup la gouache les dessins et les peintures dont nous avons parlé dans les épisodes précédents étaient, me semble-t-il, beaucoup à l'acrylique. Et là, vous êtes passé à l'huile.
Oui.
Alors, pas seulement sous l'eau.
Non, pas sous l'eau, c'est indispensable. Et le non, parce que il se trouve que c'est une question technique. Il se trouve que il y a une marque, un fournisseur de papier qui a créé un papier pour la peinture à l'huile, ce qui n'existait pas avant. Il fallait faire des préparations, des tas de choses qui prenaient beaucoup de temps. Et je me suis remis avec plaisir à l'huile parce que c'est le mode, enfin le vecteur que je préfère pour m'exprimer. Et au départ, j'avais travaillé beaucoup à la gouache parce que la gouache s'apparente beaucoup à la technique de la peinture à l'huile.
Vous n'écrivez plus sur les toiles, vous ne peignez plus sur les photos, les sérigraphies ou les papiers journaux comme avant.
Moi, sincèrement, je pense que je fais exactement la même chose depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Et c'est simplement, les choses ont évolué et amènent un travail qui va sûrement encore évoluer, mais qui va demeurer, je pense, dans le domaine de la peinture, qui j'utilise des techniques qui étaient utilisées par Van Eyck en d'autres temps. Il n'y a rien de très nouveau.
Dans votre atelier où nous sommes, là, Titouan Lamazou, de part et d'autre du mur, je l'évoquais dans le premier épisode, il y a des reproductions de vos toiles. Il y a un côté bleu-vert, un peu jaune. Et puis l'autre côté qui est une explosion de couleurs, mais plutôt chaude, rouge, orangé,
oui, qui sont souvent
rose.
Les fonds sous-marins m'inspirent la couleur, non pas que c'est des couleurs que j'ai pu observer ou pas, quoique quand on regarde tous les poissons tropicaux, ils sont relativement colorés. Mais je pense que cette couleur que je rajoute à mes tableaux témoigne de l'émerveillement ressenti. C'est-à-dire que le ressenti, même si vous prenez des photos souvent sous-marines, elles sont quand même à dominante bleue. Mais quand vous plongez, quand vous regardez, justement, ce qui est indispensable pour moi, c'est de les observer de mes yeux, les fonds marins, je vois une explosion de couleurs dans tous les domaines, et surtout, et en particulier, dans les lagons et les passes des atolls des Tuamotu.
Donc, vous avez résolument choisi le parti féerique. Ça fait deux fois que vous utilisez le mot émerveillement, plutôt que anxiogène, alors même que vous avez commencé par ça. Notre planète va mal, mais
on reproche souvent des
oui, le chat.
Des fâcheux reprochent aux écologistes d'être anxiogènes. Et il y a de quoi l'être, hein, je peux vous dire, de toute façon, être anxiogène. Mais il se trouve que j'ai opté pour un autre parti pris, c'est d'essayer de montrer aux gens et de diffuser la beauté de la biodiversité, et qui est absolument inouïe, qui est complexe, qui est interconnectée, qui est mutualiste, et qui est tellement, tellement... Elle n'est pas infinie, parce que la Terre est finie, mais quand on se promène dans les forêts qui recouvrent les îles de Polynésie, ou quand on plonge dans les lagons ou les passes des atolls, on est absolument subjugué, justement, par la merveille de cette biodiversité.
Il y a une série, parce que vous fonctionnez par série aussi,
oui,
désormais.
C'est pas nouveau non plus. Vous voyez, je citais Monet tout à l'heure. Je fais des séries. J'essaye de tenter énormément de formes, de couleurs, de compositions pour exprimer le même tableau.
C'est le cas, par exemple, d'une série que vous avez sous les yeux, qui est la série des Monarques.
Huile
sur papier marouflé sur toile. Il y a 8 tableaux.
Oui, plus.
Alors les monarques, on les voit pas tout de suite quand on regarde vos toiles.
Plus des grandes toiles qui ont été faites d'après cette série. Et effectivement, c'est un travail que j'ai commencé en faisant des croquis dans une vallée de Tahiti même, de l'île de Tahiti, qui est habitée par quelques monarques, parce que le monarque de Tahiti est un petit oiseau très sympathique. Sans doute trop sympathique, très sociable, qui fait que je crois qu'aujourd'hui on dénombre 4 couples de monarques survivants. C'est sûrement l'espèce animale qui est quasiment la plus en danger aujourd'hui et qui a été dans cette forêt absolument sublime. Il se trouve que cette forêt,
ce qu'on voit vraiment beaucoup, c'est avant tout une sorte de jungle, une forêt luxuriante.
Il se trouve que dans cette forêt, depuis l'arrivée des Européens, Il y a des rats, le rat noir, qui se promène dans cette forêt et qui se délecte des œufs des petits monarques. Et également le chat. On a amené le chat aussi là-bas, qui est un animal fort sympathique. Ils n'ont rien demandé, ces pauvres bêtes. Mais il se trouve que maintenant, ils sont devenus extrêmement nuisibles là-bas. Et il se trouve aussi que dans ce foisonnement des forêts, des vallées de Tahiti, il y a ce qu'on appelle des arbres et des végétaux invasifs. Et donc, il y avait un botaniste éclairé qui a créé, il y a quelques années, en début du XXe siècle, le parc botanique de Tahiti, qui est magnifique. Sauf que pour agrémenter ce parc, il a importé des essences qui n'étaient pas de Polynésie, comme le tulipier du Gabon, ou le miconia, ou le falcata, qui sont des arbres magnifiques, qui font des fleurs très jolies à regarder, mais ils se sont bien développés là-bas, et ils ont pris la place. Et donc ce pauvre petit monarque, il n'a plus l'environnement de son biotope, et en plus il se fait attaquer par des chats et des rats. Voilà.
Alors on le voit quand même quand on regarde bien vos tableaux, à chaque toile de la série apparaissent ces deux petits oiseaux minuscules d'ailleurs posés sur une branche d'arbre. Il faut regarder de près, attentivement, et prendre le temps de regarder. Est-ce que vous diriez, Titouan Lamazou, qu'entre Paris et la Polynésie, aujourd'hui, vous avez enfin réussi à vous sédentariser?
J'espère que je vais me sédentariser très prochainement, j'espère, dans un atelier, en Polynésie d'ailleurs, mais ce sera un atelier qui sera en mouvement.
Le fameux bateau atelier.
Le fameux bateau atelier.
De vos rêves. C'est quoi ce bateau atelier alors?
Ce bateau atelier, c'est un. J'en parle depuis un certain temps puisque j'ai annoncé ce projet publiquement, hein, puisque j'en parlais déjà hors micro, mais j'avais pas de micro devant la bouche avant. C'était lorsque j'ai remporté le Vendée Globe en 1990. Vous voyez, ce projet bénéficie d'une certaine maturation, on peut dire. Voilà. Mais bon, rassurez-vous, je me suis pas. Je n'ai pas travaillé sur ce projet depuis plus de 35 ans. Je l'ai gardé comme une sorte d'utopie réaliste. C'est peut-être un oxymore de dire utopie réaliste, un rêve, oui, un rêve idéal, disons, de vie, voilà, d'avoir mon atelier, mais un atelier qui bouge. Mais depuis récemment, plusieurs facteurs qui sont rentrés en facteur de compte, qui sont le fait que j'ai éprouvé la nécessité de l'accomplissement de cette utopie, justement, au regard de mes engagements sur la défense, enfin la préservation du vivant, sur la lutte contre le réchauffement climatique, d'une part, et puis mon séjour prolongé depuis quelques années en Polynésie, où j'ai trouvé l'écrin idéal pour l'accomplissement de ce projet.
Pour le construire,
et c'est, voilà. Alors, pour vous décrire le projet qui réunit un peu les sillages de mon parcours, qui est celui d'un artiste, vagabond, navigateur. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, ce projet, ça va faire sourire certaines personnes à qui j'en parle depuis 30 ans, mais ce projet est en passe d'être accompli maintenant, puisque sa construction devrait commencer d'un jour à l'autre. Et ce projet, on pourrait le décrire comme une... Si vous voulez, si on fait référence à des résidences artistiques, on pourrait non pas l'appeler la Villa Médicis itinérante, mais une Villa des Lumières ou une résidence des Lumières qui s'inscrit un peu dans le parcours, par exemple, d'un navigateur comme La Pérouse, qui était de l'époque des Lumières, d'ailleurs, et qui avait fait un tour du monde en embarquant des chercheurs, des scientifiques, des artistes, et qui avait, bon, la différence, c'est qu'il y avait une certaine connotation à l'époque chez ces découvreurs qui était une connotation commerciale et coloniale, n'est-ce pas? Dont le projet du bateau atelier, rassurez-vous, est dépourvu. C'est plutôt d'aller justement à la rencontre des cultures et de nos frères océaniens, en l'occurrence, et de nous intéresser et de coopérer ensemble. Voilà, et ce bateau là, donc l'idée du projet, c'est que artistes et chercheurs coopèrent ensemble pour faire acte de médiation, en tout cas pour la préservation du vivant, on pourrait appeler ça la résidence du vivant, et pour essayer de sensibiliser du mieux possible nos contemporains sur la nécessité d'agir contre ce phénomène qui va nous annihiler.
C'est l'Arche de Noé du 21e siècle, Tito en Lamazou. Hein.
L'Arche du 21e siècle.
Ah bah oui, avec des artistes et des scientifiques.
L'idée est peut-être naïve, mais plus nous arrivons à convaincre de gens autour de nous de cette nécessité, plus les politiques agiront dans le bon sens. Parce qu'aujourd'hui, on voit des attitudes de politiques qui vont chercher des voix et qui essayent de faire peur avec l'immigration ou des choses comme ça, ou qui sont d'ailleurs anti-écologistes, en pensant qu'ils vont être élus. Mais si la majorité de nos compatriotes sont convaincus qu'il est nécessaire d'agir dans le bon sens, eh bien on va essayer d'œuvrer dans ce sens.
Vous pensez que votre travail peut y contribuer? Vous espérez?
Je l'espère. J'ai déjà remarqué que certaines zones du monde dans lesquelles j'ai œuvré, j'ai pas forcément contribué à l'amélioration de leur sort. Mais de toute façon, je sais pas faire autre chose. Et je vais me servir de ce que je sais faire, de ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire de produire des œuvres en coopération, donc avec des amis chercheurs, scientifiques, pour essayer de convaincre et d'essayer de faire un travail de médiation le plus opérant possible.
Alors j'ai lu qu'à l'entrée de cette résidence d'artistes et de scientifiques flottantes, vous avez l'intention de graver la lenteur et le mode le plus rapide pour atteindre l'essentiel.
Oui, en m'inspirant sous la forme que prisait Gauguin, c'est-à-dire il faisait des bas-reliefs. C'était à l'entrée de son atelier à Tuona, à Ivaoua, aux Marquises, il y avait marqué la maison du jouir. Et là, il y aurait marqué que la lenteur est le mode le plus rapide pour atteindre l'essentiel.
Voilà, la lenteur comme le mode le plus rapide pour atteindre l'essentiel, c'est un peu un comble pour l'ex-champion de course, non?
Oui, mais même un navigateur qui fait pour métier coureur d'océan, on va quand même pas très vite. Hein.
C'est vrai.
On fait pas le tour du monde à la vitesse d'un avion supersonique. Hein.
Allez, vous avez opté pour le parti de la lenteur, on va vous le laisser. Merci beaucoup, Tito en Lamazou, pour ces 5 entretiens.
Merci.
C'était À Voix Nue avec Tito en Lamazou, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Benjamin Troncin et Benjamin Reyes, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.